Bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, je suis un peu chez moi parce qu'il y a eu un chant qu'on a pris juste avant qui a été créé à Lens, dans l'église où j'étais. Donc, j'ai géré une première église à Lens, puis en plus, on est en cours d'implantation d'une deuxième église. Et donc, l'église où j'étais à l'époque, donc il y a eu ce chant-là de Thérèse Motte juste avant, pour qui il est, pour ce qu'il fait. Voilà, ça c'est une chanson qui vient de chez moi. C'est pas moi qui l'ai faite, mais ça vient de chez moi quand même. Voilà. Et alors en plus, j'arrive ce matin et il y a des espèces de trucs jaunes là. Des belles fleurs, du mimosa. Je kiffe ces fleurs. Voilà. L'odeur, les... Oh là là, c'est trop trop bien. Merci à ceux qui l'ont ramené. Voilà. Alors en plus, comme je suis un peu rital d'origine, le mimosa, c'est la fleur emblématique de Nice. De toute la Méditerranée, hein, mais en tout cas à Nice. Donc forcément, je trouve ça trop bien. C'est bien dans une église quand on a la liberté de ramener des choses comme ça. Vous avez des idées des fois de faire des choses dans l'église et que vous n'osez pas? Attends, je vais le poser peut-être. Peut-être le mur va plus me répondre. Ouais, non, là, c'est trop compliqué. Je ne sais pas, j'attends. Il n'y a pas de signal? Ah, ça y est, il y a du signal, merci. Impec. Franchement, dans une église, il faut être à l'aise pour être qui on est. Alors moi, je suis qui je suis et j'ai pas de gêne et j'ai pas de complexe à être qui je suis. Alors je fais un peu rire, je suis un peu provocateur, un peu, juste un peu, beaucoup, à la folie. Bon, il faudrait pas des gens comme moi tous les dimanches matins. Ça serait fatigant, ça serait insupportable. Je me fatigue moi-même. Hein. Donc, mais voilà, il faut aussi. Donc moi, ce matin, je suis un peu le lanceur d'alerte de service. Ah, ça, c'est mon métier, mon ministère, si vous préférez. Mais ce sont les mêmes mots. Alors, ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse réaliser à quel point Dieu attend qu'on fasse des choses pour lui, pour sa gloire. Et j'aimerais dire que c'est important d'avoir une vision globale, pas pour l'avoir, mais pour agir. Alors, vous voyez les lunettes, là, elles sont posées. On voit mieux ce qui se passe dans les lunettes qu'autour, hein, d'accord? Donc il faut qu'on ait la bonne vision. Et la vision que Dieu nous invite à avoir, c'est celle de l'amour. C'est pas nouveau, c'est pas original, mais c'est efficace. C'est pas extraordinaire, c'est pas une super prédication. Waouh, si le gars il est juste venu pour ça de Lens, bof. Mais c'est juste une révolution permanente dans laquelle nous devrions régulièrement nous laisser rebooster. L'amour est une révolution que Dieu a inventée. Il n'y a pas eu de précédent et il n'y a pas eu quelque chose depuis. Alors, vous êtes peut-être encore en phase de réveil, je ne sais pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah, voilà, c'est ça. C'est bien, bravo, bonne réponse. Il y en a qui ont des bonnes réponses. Hein. Donc, on est régulièrement sollicité par Dieu, dans sa parole, dans les prédications, dans les chants. On est sollicité en permanence pour revenir à l'amour, à l'essentiel. Pas à l'unique chose du royaume de Dieu. Hein. Il n'y a pas que l'amour dans le royaume de Dieu. Hein. Attention. Hein. Juste, c'est la valeur socle. C'est la valeur de référence. C'est la valeur à laquelle il faut revenir en permanence. Il y a plusieurs commandements, mais les commandements sont résumés en 1 et 1 bis. Vous avez ça, hein? C'est bon, vous l'avez? Alors, c'est quoi déjà? Alors, ça doit être écrit dans... Qu'est-ce que c'est? Dans quel livre? Je ne sais plus, moi. Vous avez la référence, ça va? Dans Matthieu, en tout cas? Alors, il faut faire quoi? Je m'aime, moi, tout plein, tout seul. Tout seul, je suis le plus beau. Bah, c'est vrai, ne me contestez pas du regard. Quand je suis tout seul devant mon miroir, je suis le plus beau du monde. C'est quand les autres arrivent que ça se gâte. Mais bon, sinon... Alors, c'est quoi ce verset-là? J'aimerais vous l'entendre dire. Tu aimeras le Seigneur juste avec ton esprit. Allez, déjà, on n'est pas d'accord. Déjà, le départ, on n'est pas d'accord. Tu aimeras le Seigneur juste avec ton esprit. C'est pas ça la référence? Alors, de tout quoi? Disons-le. De toute ton âme. D'accord, ça je prends. De tout ton cœur ou de tout ton esprit, c'est pareil, je prends aussi. De toute ta force, ça veut dire quoi ça, toute ta force? Voilà, avec ton corps, physiquement, toute ta force. S'il vous plaît, les amis, qu'on se le rappelle aussi, ça. Toute ta force. Et puis, Marc, rajoute, avec ton intelligence, quatre choses dans lesquelles Dieu nous rappelle régulièrement. Et puisque c'est le commandement de base, il faut juste qu'on se le redise régulièrement. Il n'y a pas d'enfant dans la salle, ça va ? Un homme et une femme qui s'aiment. C'est juste en esprit ? Bah non, hein. Alors c'est avec quoi ? Ah ok, avec son corps, on fait crac-crac. Non mais c'est hallucinant que dans nos églises on parle pas de sexualité alors que la Bible en est plein de versets. Et il y a plus de versets sur la sexualité que sur d'annoncer la bonne nouvelle, en passant. Allô ? Et peut-être que si on en parlait plus dans les églises, il y aurait moins de tentation d'aller regarder ailleurs. Ou d'aller regarder sur des sites pour savoir comment ça se passe. Parce que si les jeunes on leur dit pas, comment tu veux faire qu'ils aillent pas ailleurs ? Ah, il ne faut pas aller faire ça, c'est pas bien. Hein. Ouais, ben, il faudrait qu'on en parle un peu plus dans nos églises. Ah ben ouais, les responsables, ils ont qu'à le faire. Non, non, c'est tout le monde qui est sollicité. C'est tout le monde qui est invité à le faire. Il n'y a pas que les prédicateurs, il n'y a pas que les pasteurs. C'est nous tous qui avons un rapport à la sexualité que nous devons exposer aux autres. C'est quoi le rapport avec la choucroute ? Absolument. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Que la façon dont on vit la famille, c'est aussi la façon dont on vit l'église. La façon dont on vit l'église ou la famille, c'est aussi notre façon de voir Dieu. Donc si on n'aime pas Dieu avec tout notre être, c'est pas anormal qu'il y ait des anorexies, des problèmes d'addiction, quels qu'ils soient, pas seulement sexuels, d'autres, toutes les addictions. Et si l'église ne dit pas des choses sur la sexualité, qui va le faire ? Les autres, et ce sera mal. Donc l'église a quelque chose à dire. Et ce n'est pas une question d'abord de sexualité, c'est d'abord une question de comment je me comporte avec Dieu. Et si j'adore Dieu avec tout mon être, ça veut dire mon corps est compris dedans aussi, ça veut dire que ma vie spirituelle va comprendre aussi la question du corps. Et mes prédications vont comprendre aussi la question du corps. Le rapport à soi, le rapport aux autres, et puis le rapport dans le couple, et dans la famille, et etc., etc. Donc j'aime Dieu avec tout mon être. Et on a des corps qui sont plus ou moins abîmés selon l'âge ou selon des handicaps, et etc. Donc avec mes moyens, avec les moyens du bord, j'adore Dieu avec mon corps. Et je l'adore aussi avec mon intelligence. Et qu'est-ce que ça parle d'intelligence là ? Paul dit, je parle en langue, ça active plutôt mon esprit, et d'ailleurs ça édifie mon esprit, donc c'est bien de parler en langue. Hein. C'est pas un détail, c'est pas du gadget. Mais il dit aussi, je prie avec mon intelligence. Je sais quoi qu'est-ce que je dis. Ah, ça parle bien ça, hein, on est d'accord. Avec mon intelligence, j'utilise mon intelligence pour servir Dieu. Je suis pas un truc vide. Je suis pas un truc flasque. Je suis quelqu'un. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, oui. Non ? Non, je cherche à savoir où vous habitez, tu vois, je cherche à jauger. En fait, je voudrais faire une OPA sur cette église. Et je cherche si ça vaut la peine ou pas. Non, c'est à cause du mimosa. C'est à cause du mimosa que je suis prêt à faire une OPA sur l'église. Le mimosa, une chanson de Lens, là, il y a tous les éléments. Mon frère habite à Lyon, donc voilà, je peux venir à Lyon. Hein, moi. Ok, j'aime Dieu de tout mon être. Et il n'y a pas de consigne absolue, c'est un principe. Il n'y a pas « je dois faire comme Alain » ou « je dois faire comme Pierre-Antoine ». Il n'y a pas ça. On se copie pas et on est à l'aise pour être qui on est. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de faire comme l'autre pour être bien. S'il y a des gens qui lèvent les mains, « faut que je lève les mains ». Non, 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 il n'y a pas ça dans l'Église. Parce que c'est ma liberté. On n'a pas besoin de tous de venir faire avec les drapeaux, là. Moi, si vous me donnez des drapeaux, je peux vous le faire. Hein. Ça va être moche. Vraiment. C'est pas juste parce qu'on agite un... Voilà, et puis il y a ceux qui savent le faire. Donc, chacun avec ses talents, et avec son style, et avec sa forme d'intelligence, on vient adorer Dieu. Et puisque tout notre être est pris en Dieu, alors du coup, ça comprend aussi toute la vie. Et donc, c'est ça mon message ce matin, c'est notre amour pour Dieu, il doit s'exprimer vers les autres. Ici d'abord entre nous, mais pas que. Et puisqu'on a dit qu'on aimait Dieu pas seulement avec son esprit... Tu vois où je veux en venir ? C'est qu'il ne faut pas aimer les autres juste en esprit. c'est qu'il faut aimer les autres et que ça doit se voir. Ça doit se voir physiquement, ça doit se voir visuellement, ça doit se voir, c'est une réalité. Le Nouveau Testament, Matthieu en particulier, dit que les gens, en voyant vos œuvres, rendent gloire à Dieu. Donc c'est parce qu'ils voient des choses, pas parce qu'ils entendent nécessairement. C'est parce qu'il faut aussi dire, hein, faut aussi annoncer, prononcer la parole de Dieu. Mais c'est aussi parce qu'ils voient des choses dans nos vies que du coup ils rendent gloire à Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'ils se donnent à Jésus, ça veut dire qu'ils se disent « Waouh !» C'est ça rendre gloire à Dieu. C'est une façon pour la société de dire « Gloire à Dieu ». Ils ne savent pas forcément, mais quand ils disent « Waouh !» Ils ont la bouche ouverte et ils se disent « C'est trop fort !» Et un jour ou l'autre, quelqu'un te dit « Mais pourquoi tu le fais ?» Pourquoi, à chaque fois que je te vois, je fais « Waouh !» Et là, tu peux dire « C'est à cause de celui qui donne du sens à ma vie. » L'action, dans notre société, plus que jamais, précède les paroles. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui a inventé que vous êtes d'abord le sel, puis la lumière. C'est lui qui a donné cet ordre-là, c'est pas moi. Le sel, c'est quand tu fais quelque chose vers les gens. Il y en a qui font de la cuisine ici ou pas, de temps en temps, ou au moins qui font à manger. Moi, je cuisine pas, mais je fais à manger. Ah, je ne sais pas cuisiner, à part les lasagnes et tiramisu. Ah, c'est des origines italiennes, c'est comme ça. C'est déjà pas mal, merci. Bravo, merci. Voilà, au moins quelqu'un qui parce que sinon, les félicitations, on ne les a pas beaucoup. Hein. Non, ça, c'est les origines un peu ritales. Donc du coup, ça je sais faire, mais après le reste, je fais juste à manger, je fais des pâtes. Bah, forcément, je fais des pâtes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus, je me suis perdu tout seul. Ça, c'est bien. Le sel. Quand vous cuisinez, comment vous faites aller votre main pour saler? Oh, c'est une question incroyablement débile. Hein. Vous faites comme ça pour saler? Ah non, on fait comme ça, hein. On fait tous pareil, hein, on est d'accord. Alors soit on fait tac-tac, soit on fait ça, ça dépend si vous voulez bien saler. Si vous voulez mettre une tonne ou pas. Mais il n'y a personne qui met du sel vers le ciel. Hein. Le sel, c'est toujours vers le sol. Par contre, la lumière, en tout cas du temps de Jésus, c'est comment? Du temps de Jésus. Il n'y a pas de lumière au plafond. C'est des lumières sur la table ou au sol qui montent. C'est des flammes ou des bougies. Donc c'est une lumière qui va vers le ciel. C'est facile comme mémotechnique. Le sel, c'est pour bénir les gens. Le sel, c'est pour faire des choses vers les gens. La lumière, c'est pour les amener à Dieu. C'est pas mal comme ça. Au moins, c'est facile à retenir. Et on n'a pas besoin de sortir de Sciences Po pour savoir comment ça se passe. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, tu scelles, tu vas vers les gens, tu agis vers les gens, la lumière, tu les amènes vers Dieu. C'est tellement facile, en tout cas pour la compréhension. Donc, nous agissons vers les gens. Et c'est parce que nous agissons vers les gens que ça leur fait peut-être dire ça. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Qui a dit ça? Si jamais je t'entends, ça va aller mal. C'est parce que tu as un crocodile sur ton t-shirt que tu me fais peur. J'ai vu, ça le démangeait. Alors tous ceux qui répondent la Bible ou Jésus ont raison. Dans l'esprit populaire et dans ce que nous disons des fois même dans nos églises, malheureusement, ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. C'est Confucius. Confucius qui a dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » C'est lui qui dit ça. Vous avez envie d'être confucusien? C'est confusant. Hein. Vous avez envie d'être confus? Ben non, moi j'ai pas envie. Jésus, il a dit quoi? Et c'est génial, hein. Si vous découpez, je suis en train de faire ça parce que j'espère faire une thèse, et ma thèse partirait de la Bible. Hein. Donc une thèse avec une vraie université, avec un vrai sujet politique et économique, parce que ça c'est mon sujet, mais avec un fondement biblique. Et en parlant de Jésus, et en mettant Jésus dans la bouche de Gandhi et de tous les grands penseurs de ce monde qui, du coup, ça passe crème. Toi, ça pose pas de problème. Vous savez que Gandhi dit « Tout ce que j'ai fait dans ma vie tient juste sur un verset de la Bible ». Et tous les gens à l'époque lui disent « Comment ? Un verset de la Bible ? Mais tu es hindouiste, en fait, c'est pas possible. » Il dit « Si, toute ma vie est basée sur un verset. » Alors, je ne suis pas gandhiiste, hein. D'accord ? Juste, c'est intéressant qu'ils disent justement ce verset. « Tu aimeras Dieu de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il ne faut pas oublier le « comme toi-même, hein. » Donc, nous, on ne veut pas Confucius, mais c'est intéressant comment Jésus a utilisé la société et la pensée collective, commune. Et j'aime ça, et je veux faire ça dans ma thèse. Montrer qu'il y a plein de choses dans la société qui, en fait, arrivent à Dieu. La Croix-Rouge, ça te ramène à Dieu. Même si les gens s'en fichent et ne savent pas, la Croix-Rouge, ça ramène à Dieu. Greenpeace, ça ramène à Dieu. Bon, c'est un peu déviant aujourd'hui et un peu extrémiste. La base de Greenpeace, c'est génial. Don't make a wave committee, le truc de base de Greenpeace. Des protestants engagés qui disent « La planète, c'est le jardin que Dieu nous a donné, on ne le bousille pas. » Ben, bravo, excusez-moi, hein. Je ne suis pas, enfin, faut peut-être pas dire si ici à Lyon, mais moi je ne suis pas écolo, donc d'ailleurs je ne suis rien du tout en termes de parti. Mais je n'aime pas l'ayatollahisme, j'aime pas les ayatollahs écologiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas avoir le sens de la Terre, puisque Dieu nous a donné la gouvernance de la Terre. Donc je suis presque anti-écologiste farfelu, mais je suis un défenseur de comment on traite le jardin. Nos églises ne doivent pas être parti pris, elles ne doivent pas être partisanes politiques, mais elles doivent être concernées par la terre. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et tu vois, le mimosa, ça vient de la terre. Et ça fait du bien. Et ça apaise. Une belle couleur, une belle forme, une belle odeur. Ça fait du bien. Il faut préserver ça. C'est à nous. Donc Jésus, lui, a dit « Fais aux autres ce que Dieu voudrait qu'on te fasse. » Ah, c'est carrément autre chose. Et c'est pas pris pour les autres. C'est pas pense à eux en faisant pour faire du bien. C'est pas je les aime en esprit. C'est je les aime pour du vrai. Donc si je dis que j'aime quelqu'un, ça doit se voir. Si monsieur aime madame et madame aime monsieur, ça doit se voir. Y compris dans l'intimité où on ne voit pas. Mais ça doit se voir. Eux, ils doivent le savoir. Et il y a même un verset qui dit « Monsieur, quand t'es vieux, sois sans cesse épris des charmes de ta femme. » Wow. Ça parle pas à un jeune. Ça parle à quelqu'un qui est déjà plus vieux et qui a un peu de lassitude dans son couple. Et il lui dit « Sois sans cesse épris de ses charmes. » Je sais pas pourquoi nous n'avons pas ces versets dans nos églises qui sont dits. C'est dommage. Les charmes, c'est quoi? J'expliquerai plus tard, un autre jour, quand ce sera le sujet. Donc, on doit faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Si tu n'avais pas de boulot, tu voudrais qu'on fasse quoi pour toi? Attention à la question. Si j'avais pas de boulot, j'aimerais qu'on me donne de l'aide alimentaire ou de l'argent pendant un moment. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est un boulot. Pas vrai? On est tous d'accord là-dessus. Ben, les gens de la société sont comme nous. Ils répondraient à la même question. Ce serait un sondage quasi... Fais aux autres. C'est une... L'évangile de Jésus est proactif. L'amour est proactif, ça veut dire que l'amour anticipe, l'amour fait quelque chose pour les gens. L'amour vient faire du bien. L'amour n'est pas un concept, c'est trop grec ça. L'amour concept, l'amour émotion, c'est grec. L'amour action, c'est hébraïque. Et c'est justement comme ça que la Bible a été écrite. Donc si j'aime, ça doit se voir. Alors ça ne doit pas se voir avec tout le monde, c'est pas possible. On ne peut pas. Hein. À part moi qui suis parfait... Ça marche pas quand je dis ça, je sais pas pourquoi. C'est pas crédible? Comment? Oh là là, ça me casse. Bon, d'accord. Puisque c'est dit comme ça en public, ok. Je vais arrêter de faire semblant. Personne n'est parfait, on n'arrive pas à aimer tout le monde, c'est pas possible. Mais on doit aimer ceux qui sont à côté de nous. Notre prochain, c'est la prochaine personne que je rencontre. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre. Je dois l'aimer, ça doit se voir. Le gars qui part sur le chemin... Il voit un autre gars qui s'est fait fracasser. Bon, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est comme ça qu'on peut le dire aujourd'hui. Il y a un gars qui s'est fait fracasser. On pourrait donner des mots, comme aujourd'hui, comme des gens dans les médias ou les politiques le disent. Hein, des gens un peu violents, des gens un peu énervés. Donc, le gars, il se fait fracasser. Et donc, il y a un religieux qui passe et qui se dit « Mon Dieu oh !» Encore un cassos. Encore ces gens qui usent des minima sociaux. Bien fait pour ça. Tronche. Et puis il y en a d'autres qui passent, qui disent « Oh bah alors, oui, je vais peut-être prier pour lui, parce que franchement, il mériterait mieux, mais bon, je ne vais pas m'occuper de ça aujourd'hui, j'ai pas le temps. » Et puis qui passe? Quelqu'un qui est ennemi du Samaritain. Pourquoi on a cette parabole du Samaritain qui est si populaire dans nos églises? Et pourquoi elle ne nous parle pas plus d'aller dans l'action? Peut-être parce qu'on aime beaucoup cette histoire, elle nous rassure, elle nous parle d'un évangile concret, facile, accessible, mais en même temps, ça nous coûte un peu. Pour le coup, le mec, là, il a dû payer, hein. Vous vous rappelez de ça? Il a payé, ça va? Tout le monde a la référence? Il a payé, hein. Il a payé l'aubergiste. Donc, il le met là, il paye la pension et il dit, « Hey, frère, je repasserai et je te donnerai le complément. » Il y en a qui ont compris. Ok, donc c'est ça notre évangile. Et il ne peut pas y avoir d'autre évangile que celui de Jésus-Christ. Amen. Que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, mais traduisez-les par des actes accomplis dans la sincérité. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais traduisez-la en actes. Vous voulez que je vous en donne comme ça encore d'autres? Donc, 1 Jean et Jacques nous disent, « Eh les gars, il faut que ce soit concret. C'est bien de parler, c'est bien le langage, c'est bien de dire je t'aime, c'est bien de dire au monde entier « j'aime le monde et ses environs ». Surtout les environs. C'est beau, et je pense qu'on doit le faire. Et ce serait malvenu que des chrétiens disent « je n'aime pas les gens ». Ça fait pas bien ça, hein. Et ce serait pas bon, pas sain. Mais ça suffit pas de dire « j'aime les gens ». Et je voudrais te poser une question à laquelle je te demande absolument pas de me répondre, je ne suis pas ton gardien, dans le sens contrôleur. C'est quand la dernière fois qu'on peut dire que ton évangile se voit en termes d'amour? Je repose la question, et je la fais dans le autrement. Quand est-ce que quelqu'un d'autre que toi peut témoigner que tu aimes les gens et que ça se voit? Il n'y a pas de culpabilisation, pas de culpabilité. Je déteste la culpabilité, c'est diabolique. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est juste, qu'est-ce que je fais pour les autres? Et tu as le droit de répondre, ma femme, mon mari. Ouais, mon mari, il en a vraiment besoin. Mes enfants. Tu as le droit de dire les gens qui sont proches, mais ce n'est pas ça la question. Et la Bible, d'ailleurs, elle dit, les gens du monde font du bien aussi à ceux qu'ils aiment. C'est le Nouveau Testament qui dit, hein. Et les gens du monde font aussi du bien à ceux qu'ils aiment. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça. Par contre, qu'est-ce que je fais pour les autres que je ne connais pas, ou que je n'aime pas, ou qui ne m'aiment pas, ou qui n'ont rien à faire de Dieu? Justement cela, tiens. Justement cela. Allez, puisque vous en voulez encore, en voilà deux autres versets. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons du bien à tout le monde. Everybody. À tout le monde. Et puis, j'aime bien le début du verset. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Ça sous-entend qu'on se fatigue à aimer les gens. Ça sous-entend qu'on se fatigue. Et c'est légitime, c'est pas une faute. Mais ne te laisse pas décourager, laisse Dieu te renouveler dans ton amour. Est-ce que vous avez toujours envie de venir au culte le dimanche matin? Je vais faire une enquête, je fais un micro-trottoir.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, nous avons un hypocrite ici.
Moi, je suis obligé de venir, je suis pas ça.
C'est honnête, mais pas très bien non plus. Disons que c'est un peu mieux que le premier que nous avons. Le premier échantillon de notre sondage était vraiment catastrophique. Le deuxième, mitigé. Quelqu'un a envie de venir toujours au culte? Madame?
Oui.
J'espérais qu'une femme sauve l'honneur, mais même pas. Bon, j'arrête le sondage. Il est pas bon. Il est pas en ma faveur. Eh ben, moi, je vais vous dire, j'ai pas envie de venir tous les jours au culte. Il y en a qui sont comme moi. Il y en a qui sont comme moi, qui lèvent la main, mais qui osent pas. Est-ce que dans nos couples, on est toujours au taquet sur l'amour? Je lève les yeux au ciel de peur de croiser des regards. Donc l'amour, il a besoin d'être renouvelé régulièrement. Pour Dieu, pour les humains. Et Dieu, comme il nous connaît, il sait nos limites, il sait comment on est des... pas toujours bien, pas toujours gentil. Alors il nous dit, faisons le bien sans nous laisser gagner pour le découragement. Et il précise, faisons du bien à tout le monde. Parce qu'il sait aussi qu'on aurait une tendance à aimer que les siens, sa famille, éventuellement l'Église. Éventuellement. Il y a quand même des limites, quoi. Je t'aime, je fais un peu la blague de temps en temps, je l'ai faite hier. Je t'aime, moi aussi. Ouf, j'ai récupéré à temps. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'espérance. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la foi. Ah non, j'ai pas bien lu. Hein. C'est l'amour. Et si c'est Dieu qui dit que la plus grande, c'est l'amour, il n'y a pas à discuter là-dessus, les amis. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas moi. C'est écrit dans sa parole. Donc, puisque c'est écrit, je dois le pratiquer. L'amour, c'est quelque chose qui se voit, ce n'est pas quelque chose qui est conceptuel, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose d'intentionnel. Et pourtant, ça commence par la foi, par l'intention et la déclaration. Oui, mais ça finit dans l'action. Vous me suivez? Je la refais? C'est bon? On est prêt? L'amour, c'est pas une question conceptuelle ou une question de foi ou de déclaration, même s'il faut aussi tout ça. L'amour, c'est quelque chose qui se voit. C'est Dieu qui a inventé que l'amour, ça se voit. Les Grecs ont inventé l'amour romantique. L'amour émotionnel. Et il faut des émotions. Dieu n'est pas contre les émotions, donc il ne sait pas qu'il ne faudrait pas de romantisme. C'est juste que ce n'est pas la définition de l'amour chez Dieu. L'amour chez Dieu est toujours quelque chose qui se voit. Jésus, il fait quoi? Dans son amour, il vient, il s'arrête dans le ciel, il se met sur un gros nuage et il dit « Eh les gars, allez, je vous aime. » C'est dans quel verset ça? Quoi, vous ne l'avez pas dans votre Bible? Mais enfin, Pierre, tu l'as au moins dans ta Bible celle-là, non? Tu l'as pas? Bah enfin, mais non, mais bien, vous avez raison. Jésus vient sur la terre, il s'incarne, il incarne tout le message de l'amour sur la terre. Donc si Jésus l'a fait en vrai et que c'est visible, il nous faut que, ça se voit chez les autres. Les autres doivent voir notre amour. Les autres doivent voir que nous aimons pour du vrai. Il y en a marre des baratins. Les gens en ont marre de la politique, en ont marre des médias, en ont marre même des scientifiques depuis la Covid. On dit qu'on n'a jamais eu aussi peu de respect. Et nous avons une autre approche, on doit avoir un respect pour les gens, pour les autorités, sans leur donner du crédit que tout ce qu'ils font est bien. Mais on respecte et on continue à aimer et on démontre notre amour aussi par des paroles. Mais les paroles ne suffisent pas, il faut passer aux actes. Donc je repose la question. Quand est-ce que c'est la dernière fois où ton amour s'est vu concrètement pour quelqu'un d'autre en dehors de ta famille? Bon, il va passer à autre chose ou quoi? Ça va, c'est sur mon temps que je prends ça, donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous êtes là, vous. Les portes sont fermées. Hein. Jusqu'à 11h45. Il n'y a pas de place pour la culpabilité, pas de place pour les regrets, juste de la place pour « je veux faire mieux à partir de maintenant ». C'est la seule place que Dieu nous laisse, dans le sens qu'il n'y a pas, de jugement que Dieu fait. Enfin, un jour il le fera. Et il nous jugera quoi? Sur quoi au ciel? Il nous jugera sur ce qu'on n'a pas fait. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai presque pas menti. Tourne de quel côté? Qui a raison? Dieu a raison. Et donc, ceux qui servent Dieu devraient avoir un peu raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas des scientifiques forcément, donc on ne va pas aller dire des choses sur les plateaux au niveau médical si on n'est pas des experts dedans. Mais il faudrait que nos églises puissent produire des gens qui ont autorité dans tous les domaines, depuis les caniveaux, donc depuis celui qui nettoie la route, qui doit être valorisé au même niveau que celui qui est docteur, en diplôme. Et là où nous sommes, dans ce que nous faisons, on n'est pas tous dirigeants d'une entreprise, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous... Mais on a tous des moyens de bénir. Même quand on est à la retraite, on peut bénir ses voisins. Même à la retraite, on peut offrir un café à celui qui fait les poubelles chez nous. Ma femme avait même mis un truc sur les poubelles, nos poubelles, le conteneur, pour dire si vous avez envie, venez boire un café. Jamais personne n'est venu, parce qu'il va aller vite, rentrer vite à la maison, et je comprends. Je comprends. Mais au moins, ils savent. Et du coup, de temps en temps, c'est « Ah, c'est vous, monsieur et le madame, là, avec le café ?» Bon, on n'a pas le temps, on est désolé, hein, mais c'est sympa. Ben oui, c'est resté dans la tête, ça fait déjà il y a 5 ans. Notre intention doit se voir dans des actions, quand bien même elle n'aboutirait pas. C'est ça, d'agir dans l'amour. Un cœur pour aimer. Ça, c'est la culture du royaume. Donc, il y a une question de centralité, c'est Dieu d'abord, c'est l'adoration, la prière, l'attachement à la parole. Il y a la communauté, c'est nous, c'est l'Église. Et le troisième C, c'est la cité. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans cette intersection-là. Il n'y a pas d'amour de Dieu, il n'y a pas de royaume de Dieu sans cette intersection des trois choses. Dieu nous a demandé d'aimer jusqu'à nos ennemis. Est-ce que vous savez la différence des mots sur l'amour ? Philéo, c'est l'amour qui est utilisé soit dans la famille, soit dans l'Église. Et c'est « je t'aime Alain parce que tu m'aimes et tu m'aimes parce que je t'aime ». Il y a une réciprocité. « Ah, mais oui, mais t'es le pasteur, donc tu dois m'aimer plus ». Rien du tout, il n'y a rien de ça. C'est juste à égalité, l'amour, dans l'amour on est égaux. On est égaux, il n'y a pas de différence. Donc je t'aime parce que tu m'aimes, et tu m'aimes parce que je t'aime. Il y a une réciprocité, et donc j'ai le droit d'attendre du retour de l'autre. Ah bon ? Eh oui. Par contre, agapéo, c'est l'amour jusqu'à nos ennemis, et c'est un amour à sens unique. J'aime, j'attends pas de retour. Mais j'aime, ça se voit, d'accord ? Donc j'aime, Jésus quand il donne sa vie sur la croix, il est dans un agapéo, mais il a aussi, pendant le temps avec les disciples, été en philéo. Il a aimé les disciples et les disciples lui ont rendu la monnaie, si je peux me permettre. D'ailleurs, l'histoire de Jean, c'est ça. Je t'aime et tu m'aimes, et il y a réciprocité. Et donc j'attends. Moi j'attends que ceux de mon église m'aiment. Ah ben dis donc, le pasteur est exigeant. Non, c'est pas une question de pasteur, c'est une question de relation humaine. C'est une question que j'aimerais bien être aimé par les autres. Vous, non ? Donc vous, ici, vous n'avez pas envie d'être aimé ? Bah, c'est triste. J'ai juste vu juste à l'instant. C'est bien vu, on a synchronisé. Si on met des mains, alors on n'est pas tous en train de prier en faisant ça. Mais le symbole de la prière, c'est toujours ça. Même pour des incroyants, le symbole de la prière, c'est deux mains jointes. Et donc, il y a un sentiment d'humilité devant Dieu, de limitation humaine, et on appelle Dieu parce que franchement, on n'est pas à la hauteur. Et j'aime ce geste-là qui symbolise, d'ailleurs, même dans les émoticônes sur les réseaux sociaux ou sur votre téléphone, s'il vous plaît, tu dis « j'ai un problème, il faudrait que je sois aidé », et il y a les gens qui joignent les deux mains. Bon, ils ne savent pas ce que ça veut dire vraiment, mais c'est cette notion-là qui est bien dans la tête des gens. Donc, les mains jointes, c'est je dépends de Dieu. Et puis, les mains réciproques, ça, c'est l'amour fraternel. On a un amour au même niveau. Il n'y a pas les pasteurs, les anciens responsables. Donc, les pasteurs, les anciens, c'est des hommes. Les responsables de la louange, hommes et femmes. Les responsables des enfants, ce sont des femmes. Les responsables du ménage, des femmes. Non, c'est pas ça ? Maman.
Ça pue.
J'espère que nos églises sont réellement de plus en plus dans la l'égalité femme-homme. Et je ne suis pas pour le genre, le dégenre. Je ne suis pas pour l'annulation des genres. Je n'y crois pas. C'est Dieu qui a écrit l'homme et la femme, point barre. Et on a des fonctions différentes, point barre. Mais égalité de droit, absolument. Et puis, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Homme et femme. Homme et femme. Homme et femme. Homme, j'ai mon truc qui s'était resté enrayé, il faut que j'ai appuyé sur le stop. Si nos églises n'ont pas une capacité à avoir un amour réel, franc, sans fioriture, juste un amour sincère, honnête, mais aussi à égalité femme-homme, nous n'avons pas de crédibilité dans la société, nous serons toujours des baratineurs pour les autres. Donc ça doit se voir, nos églises doivent être un endroit où les femmes ont le même droit que les hommes. Ben, il aurait fallu dire amen, je ne sais pas. Non, non, c'est trop tard. Ça ne sert à rien après. Donc une égalité femme-homme qui n'enlève rien à la différence femme-homme que Dieu a créée. Mais puisque Dieu a créé l'homme et la femme à son image, ça veut donc dire que l'homme a une partie de l'image de Dieu et la femme une image de Dieu. Et si on était en hébreu, je vous ferai un cours en hébreu, c'est trop génial. Déjà en hébreu, comment c'est écrit que un a une partie de Dieu, l'autre a une autre partie de Dieu, Ish et Isha. Et quand vous l'écrivez avec des lettres hébraïques, vous avez trois lettres. Ish et Isha en français, il y en a une de plus, mais en grec, c'est trois et trois. Les deux, il y en a deux communes, et il y en a une qui est distincte et qui fait le Yah de Yahvé. Il y en a un qui a le Y, l'autre qui a le A pour faire court. Hein. C'est pas aussi simpliste que ça. Et si vous mettez que les deux, ça fait destruction. Si vous prenez que les deux lettres communes, de l'homme et de la femme, ça fait destruction, ça fait brisure, tu peux dire aujourd'hui divorce. Par contre, tu gardes l'équivalent du ya de chez l'homme et chez la femme, et ça, ça fait complétude, réussite, épanouissement. Trop fort. Trop fort. Trop... Non, j'ai arrêté. Je pense qu'il y a un truc qui se déclenche quand j'ai pas de réponse, la bobine se remet en replay, tu sais. Ça doit être ça. Et puis, l'amour vers les ennemis, c'est des mains tendues et il n'y a pas d'attente de retour. Donc, j'aime Dieu en supplication, mais aussi en forme d'humilité, de dépendance. J'aime les frères, réciproquement. J'aime mes ennemis. Et à chaque fois, ça doit se voir. On avait une chanson qu'on chantait beaucoup à Mâcon à l'époque de l'Armée de l'Éternel. Pouf, ça remonte à des années-lumière. C'était « Et les mains tendues vers Dieu, nous adorons et chantons. Et les mains tendues vers Dieu. » Et c'est les gens, ils voient ça. C'était quoi? J'ai oublié le reste de ce que je voulais dire, en fait, dedans. Non, ça ne revient pas. Et c'était donc... les gens sont étonnés de voir que je lève les mains. Bah oui, mais ça se voit. Et ils sont étonnés. Pourquoi? Ils sont quoi? Ils sont un peu fêlés? Oui, probablement. Mais on aime Dieu, on l'adore et ça se voit. On aime les gens, ça se voit. J'aime mon mari, j'aime ma femme, ça se voit. Moi, je ne fais pas exprès que ça se voit que les gens, quand je suis avec ma femme, dans l'église, je ne suis jamais assis à côté d'elle, elle à côté de moi. On se voit assis à la maison, ce n'est pas la peine qu'on soit encore assis à côté à l'église. Enfin, ça, c'est nous, hein, c'est libre de... Vous avez le droit de le faire autrement. Hein, c'est, je veux dire, voilà, ça, ce n'est pas ma pratique, moi. Mais les gens savent qu'on s'aime. Et régulièrement, j'ai des gens qui nous disent « Ah là là, voilà, donc t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Juste, ça se voit. Donc la question, c'est est-ce que les autres voient que tu les aimes? C'est simple. Très concret. Et très embêtant. Parce que c'est pas un évangile facile. Ok, allez, dernier point. Il me reste, allez, on va dire une petite 10 minutes, ça va? Créateur et rédempteur. Dieu est à la fois le créateur et à la fois le rédempteur. C'est étonnant que nos chants d'église, parlent beaucoup plus du rédempteur que du créateur. C'est dommage, parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau Testament. Et le Dieu rédempteur est créateur, le Dieu créateur est rédempteur. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de dissociation. Dieu est un tout dans qui il est. Donc, remettons à l'endroit le Dieu créateur, qui est le même que le Rédempteur, on est d'accord, vous inquiétez pas, hein, j'invente pas un deuxième Dieu. C'est juste qu'on doit le remettre, on doit remettre cette facette, cette partie-là de Dieu à l'honneur. Et c'est les deux axes majeurs de Dieu, Créateur et Rédempteur. Et tout le reste vient s'adosser dans les différents attributs de Dieu. Donc, en tant que Créateur, il nous a donné un mandat, le premier mandat. Et c'est un mandat qu'il nous a donné avant la chute. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Comment? Multipliez-vous. D'ailleurs, ce serait intéressant de parler de ce terme, qui est très fort, mais qui ne dit pas qu'il faut avoir 50 enfants par famille. Bref, gardez le jardin et dominez. Et ce serait intéressant... Comme pour multiplier, ce serait intéressant de s'arrêter sur les mots. Ils sont tellement puissants dans l'hébreu, tellement forts et tellement un message que Dieu nous transmet. En tout cas, en tant que créateur, il nous a donné un mandat de garder le jardin et de transmettre. Donc garder le jardin pour nourrir sa famille, donc il y a toute la notion de travail, il y a le rapport à la terre aussi, mais aussi de transmettre le rapport générationnel et le rapport politique. Il y aurait de quoi dire là-dessus. Hein. Générationnel, c'est toujours les parents qui transmettent aux enfants, non? Pourquoi des fois dans nos églises on dit « Ouais, ben les jeunes, ils ont qu'à être plus engagés. » Pas ici. Vous avez la fin de l'Ancien Testament? Il vaudrait mieux dire d'ailleurs Premier Testament, mais c'est pas grave, pour qu'on se comprenne. Yes, merci, trop bien. Des fois, je dois attendre plus longtemps, bravo. Ben, ça me donne plutôt un indicateur pour l'OPA. Il ramènera le cœur des... Les enfants vers les pères? Non, 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 non. Le cœur des pères vers les enfants. Et alors, le cœur des enfants vers les pères. C'est toujours au plus vieux de faire un effort vers les plus jeunes. Eh ben, et puis quoi encore? Eh ben, c'est Dieu qui a inventé ça, les amis. C'est pas moi, c'est Dieu. T'y comprends rien à TikTok, t'y comprends rien aux réseaux sociaux, et tu trouves qu'ils sont bien trop sur leur téléphone. Ouais, on n'a jamais autant de gens qui ont entendu parler de la Bible grâce aux réseaux sociaux. Alors, il y a un vieux qui lève la main là-bas. Eux, ils me traitent. Écoutez, les amis, l'amour, ça fait partie. La transmission est aussi une question d'amour et de premier mandat de Dieu. Donc, je dois aimer les plus jeunes, et même si je comprends rien à leur truc, je les aime quand même. Et je fais un effort vers eux. Je suis sidéré des papis et des mamies qui font des efforts avec leurs petits-enfants, et des fois, les mêmes papis et mamies qui ne veulent pas faire d'efforts dans l'église. Je ne sais pas pour vous, hein, je ne vous juge pas. Je ne vous connais pas, je ne sais pas comment ça se passe. Je dis juste qu'on a un défi de Dieu qui est une question d'amour, mais aussi une question de premier mandat. Et ce mandat a été donné avant la chute. Il ne peut donc pas être remis en question par le péché. Ce mandat reste un mandat pour toute la vie, puisque Dieu l'a donné avant la chute. Puisque Dieu l'a donné avant la chute, je dois le respecter à égalité avec le mandat missionnaire. Pas question de les dissocier. C'est la fin, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a qui doivent se dire, voilà, il est parti. Quelqu'un me donne encore 5 minutes? Qui c'est qui me donne 5 minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vous êtes fait avoir comme des débutants. C'est grave, c'est grave. Vous ne pouvez pas être aussi... Waouh. Eh bien, écoute Alain, tout président que tu es, je suis désolé, je prends encore 3 heures. Mandat culturel. Donc, c'est Genèse, il est fou. Genèse 2,15. Et donc, ça sous-entend qu'on est le sel. Et puis, le mandat missionnel, ou missionnaire, comme vous voulez, mais j'aime ce mot missionnel que je défends depuis 15 ans, et enfin, le CNEF, depuis l'année dernière, a dit qu'il faut un élan missionnel dans nos églises évangéliques. Bravo, il était temps. Il était temps. L'église missionnelle, ça veut dire que tout le monde est au service, et que tout le monde peut prendre la liberté de ramener du mimosa. Mais au nom de quoi ils ont ramené du mimosa, eux? Et ils se la pètent parce qu'ils ont un arbre jaune dans leur jardin? Et alors? Et puis il y en a une qui prend les drapeaux, ben, elle a cru quoi? Que nous on ne pouvait pas le faire? Eh ben non. Et chacun peut venir au service dans l'église avec des choses spontanées. Il n'y a pas besoin de les organiser longtemps à l'avance et il n'y a pas besoin d'être un expert. Et tu n'as pas de mimosa dans ton jardin, bien fait, tu as autre chose. Tu ne sais pas jouer d'un instrument, bien fait, tu peux faire autre chose. Je suis sûr que quelqu'un s'est dessiné ici. Je suis sûr. Est-ce que c'est utilisé dans le culte? Il faudrait. Je suis sûr que quelqu'un a une idée des fois de « Oh, j'ai vu une pub à la télé, elle parle trop de Dieu. Hein? Comment? C'est pas possible. Bouh !» Ben tiens, bien sûr, Jésus lui-même utilisait les choses de son temps. Paul aussi, il n'y a pas de raison qu'on le fasse aujourd'hui. Ok, donc, on est aussi sel et lumière, le sel découlant plus du mandat culturel, la lumière plus du mandat missionnel. Et puis, forcément, comme on a dit pour le sel, on agit pour le bien, on agit vers les gens, on agit vers la terre, on agit vers les hommes. Et on fait du bien à tous les à tout le monde. Je voulais vérifier que vous avez bien appris la leçon. C'est limite, hein. Et tout ça s'enchaîne. Et il n'y a pas « je choisis juste un côté parce que moi je préfère être dans la lumière ». Non, Dieu t'a pas donné le choix. T'as pas le choix, mon ami. La Bible dit que vous êtes sel et vous êtes lumière. C'est pas vous avez du sel et vous avez de la lumière. C'est pas un QCM. J'aime bien sel, je coche sel. J'aime bien lumière, je coche lumière. Non, c'est vous êtes sel, vous êtes lumière. C'est un ordre. T'obéis au patron ou pas? Parce qu'il est mon frère, mon ami, mon seigneur, mon sauveur, comme on l'a chanté dans la belle chanson de Lance. Mais il est aussi mon patron. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je plie le genou devant lui. Amen. Alors si on s'occupe que du mandat missionnel, on a une tendance à être branché que sur l'église, c'est l'ecclésiologie, c'est quand même la grosse tendance de nos églises, malheureusement. Si on s'occupe que de là, on risque de devenir politicien ou d'avoir un évangile libéral, comme la Croix-Rouge. Ça commence avec Dieu, ça finit dans le vide, en termes de valeur. J'ai pas à choisir entre les deux. Par contre, dans une église, il y a des gens qui vont être plutôt là et des gens plutôt là. Mais c'est à l'église de coordonner ça pour que ce soit effectif globalement. Et ça veut dire que l'église, organisant ça, si moi je suis plutôt du côté mandat culturel, ben je sais qu'il faudra faire des efforts vers le mandat missionnel ou missionnaire. Et si je suis de ce côté-là, je sais qu'il faudra faire des efforts vers les autres. Parce que l'église, c'est un endroit où on se respecte normalement. Mais tous. Respecter, c'est pas juste je te salue et je te dis que j'éteins de l'amour du Seigneur. Se respecter, c'est valoriser les intérêts de l'autre. Et que chacun, prenant à cœur ses intérêts, c'est le Nouveau Testament qui le dit, prend aussi les intérêts des autres. Amen. Est-ce que je peux prier? Je ne parle pas d'une prière officielle. Tu veux que je le remette? Allez, pour Alain, pour le plaise. Mais du coup, il faut que je te refasse le truc, c'est ça. Mais c'est bien, ça fait une petite révision. Très très bien, merci Alain, la petite révision. Donc on a dit, mandat culturel, c'est le côté créateur. Mandat missionnel, c'est le côté rédempteur. Le côté missionnel donne la lumière. Le côté culturel donne, donc de s'impliquer dans la culture, c'est-à-dire dans la société, c'est le sel. Je me mélange avec la soupe, on ne sait même pas me reconnaître au premier abord. Le sel dans la soupe, vous ne le reconnaissez pas. Il y a des gens qui font de la cuisine et qui ont déjà fait de la soupe. Est-ce qu'une fois que vous avez mélangé le sel, alors ça n'a pas de goût déjà, c'est berk. Moi je ne mange pas, déjà je suis limite avec la soupe. Alors en plus si tu ne mets pas de sel, c'est sans moi. Bon, donc tu mets du sel, une fois que tu l'as mélangé, tu le retrouves le sel? Impossible. S'il est dissous, il est dissous. Terminé. Donc le sel, c'est là, dans la culture, on influence. Et puis, on agit vers les gens, donc vers le bas, comme le sel, et là-haut, on les amène au salut, vers le haut. Et spéciale dédicace pour Alain. Voilà, ben, je suis content d'avoir fait du bien. Il y a des gens qui m'ont fait du bien avec du mimosa, moi j'ai fait du bien à Alain avec un bon... Ok, alors quand je disais, est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous, ça vous implique. Je peux faire une prière officielle de fin de culte. Je ne sais pas faire, je ne veux pas. Par contre, si je prie, ça vous implique. Ça veut dire que moi, je prie Dieu qu'il vous pousse à agir. Donc c'est ça ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas prier à votre insu. Par contre, si je prie, c'est dans ce sens-là. C'est parti? Il est menaçant. Vous pouvez vous lever. Si vous êtes d'accord, justement, manifestez votre accord en vous levant et vous avez le droit de rester assis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de quota. J'ai pas de jugement. Chacun fait comme il veut à son moment. Ta parole est vérité. Moi, je le dis avec mes mots. Je le dis avec mon style. Il y en aime, on n'aime pas. C'est pas le problème. Ton Saint-Esprit agit toujours quand ta parole est prononcée. La parole ne revient jamais à toi sans avoir produit de l'effet, sans avoir produit de l'effet sur la terre. Et quand ta parole elle est prêchée, que ça plaise ou pas, c'est ta parole qui est mise à l'honneur. Et je prie que dans cette église, il y ait un changement radical. Et c'est pas qu'avant c'était nul et qu'avant il n'y avait rien, pas du tout. C'est à partir de maintenant une nouvelle saison. Et cette saison, c'est une saison dans l'action. Une saison dans l'action pour impliquer chacun dans cette église, parce que c'est fondamental, mais aussi une saison pour aller toucher les incroyants, les autres autour de nous, autour de cette église, mais aussi autour de nos quartiers, là où on habite. Et je prie, Seigneur, que tu libères l'amour, un amour actif, et que tu ne nous laisses pas tranquilles, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, qu'on ne soit pas tranquille dans une vie chrétienne un peu embourgeoisée. On est là pour te servir, et on est là pour ne pas savoir où poser notre tête, comme toi, Jésus. Et je prie, dans le nom de Jésus-Christ et dans l'autorité qui m'est confiée dans mon ministère. Je prie que chacun soit libéré, encouragé, mais aussi comme poussé, parce que tu nous envoies. Seigneur, que ta parole produise la vie, qu'elle produise des changements et que ce soit visible. Et je prie que cet amour dont nous sommes envahis de toi soit visible chez les autres. Et que plus que jamais, dans cette génération complètement chaotique, complètement perdu, avec des nouvelles dont on ne sait même pas où on va aller. Mais nous, on n'a pas peur, et c'est notre façon de te servir, c'est de montrer l'amour aux autres, et c'est ça qui convainc les autres aussi, que tu es vraiment vrai, et que nous ne sommes pas des baratineurs. Amen. Amen. La Bible dit qu'on est envoyé dans la mission. Vous savez le mot en grec, comment il est utilisé? Exbalo. Le même mot que pour chasser des démons. Ça veut dire un coup de pied aux fesses, et bam, tu y vas. Ça vous va? Ça, c'est mon métier, ça. Moi, je mets des coups de pied aux fesses, et puis vous y allez. Ex-ballot, envoyé dans la mission, mais avec amour. C'est pas méchant, c'est pas violent. mais on est envoyé pour servir Dieu dans cette société. Amen. Soyez bénis.